plus.
Voilà, je suis avec Michel Simon.
Simon.
Qui nous a donné une magnifique masterclass, comme on dit maintenant, hier soir à la soirée inaugurale, sur le cinéma, sur des références à la fois britanniques et américaines, des cinémas qui vous sont proches. Comment vous est venue cette passion pour le cinéma anglophone ?
À vrai dire, j'ai une passion pour le cinéma. J'ai pas de passion pour le cinéma anglophone particulièrement. J'adore le cinéma espagnol, italien, français, russe. Tant que le cinéma est passionnant, eh ben je l'aime. Moi, j'ai pas du tout de... Mais c'est vrai que par ma formation, j'ai des professeurs d'études américaines pendant 30 ans à la Sorbonne, j'ai à Paris 7. Comme j'ai également beaucoup voyagé dans les pays anglo-saxons, dès mon adolescence, j'ai été apprendre l'anglais dans des familles en Angleterre. Ensuite, j'ai passé un an aux États-Unis comme assistant dans une université à l'âge de 20 ans. Donc
58-59 ?
Comment ?
En 58-59, c'est ça ?
Voilà. Donc, ça veut dire que je me suis beaucoup familiarisé. Je parle l'anglais couramment, ce qui fait que j'accepte plus facilement, si vous voulez, de traiter de sujets dont je connais la société, l'arrière-plan culturel. Je me sens beaucoup moins à l'aise si je devais faire un livre sur Taïwan ou sur... ou sur l'Argentine, voilà. Donc, et puis en plus, le cinéma américain, en particulier, est tout de même un des plus grands cinémas au monde. Peut-être avec le français, le seul cinéma qui a une histoire continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption dans l'histoire du cinéma américain depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de période grise ou de période faible, comme c'est le cas dans le cinéma allemand, dans le cinéma russe, dans le cinéma italien, même dans le cinéma anglais. C'est ce que je disais dans ma conférence hier. Le cinéma muet anglais, par exemple, ne se compare absolument pas avec le cinéma soviétique, avec le cinéma français, avec le cinéma hollywoodien, avec le cinéma même scandinave et le cinéma allemand. Il y a pratiquement pas un seul très grand cinéaste, à part Hitchcock, qui a fait des films muets en Angleterre. Donc c'est un cinéma qui a mis du temps à se trouver, je crois pour des raisons culturelles, parce que pour deux raisons. D'abord, la prééminence de l'Amérique, c'est-à-dire que comme surtout dans les années 30, avec la naissance du parlant, c'est la même langue, quoi que dise Bernard Shaw qui disait que les Anglais et les Américains ont beaucoup de choses en commun sauf la langue, c'était un paradoxe à la Shaw, mais en fait, le fait que les Anglais, évidemment, aillent voir des films américains qui parlent leur propre langue, avec souvent énormément de comédiens qui sont des comédiens anglais, car il faut dire que la moitié peut-être des comédiens américains sont d'origine anglaise, ça facilitait évidemment la diffusion des films américains, et le cinéma anglais a toujours été considéré comme un peu marginal par les Anglais eux-mêmes. Et puis en plus, parce que le cinéma anglais, comme je le disais, a eu des vaches maigres, a mis beaucoup de temps à s'installer, et les Anglais préféraient le théâtre et préféraient la littérature de leur propre pays plutôt que son cinéma. C'était un pays qui était orienté, la musique évidemment, les Anglais aimaient beaucoup la musique, mais souvent la musique étrangère, mais ils aimaient aussi beaucoup lire des romans et voir des pièces de théâtre, et là les Anglais sont des maîtres. Donc c'est seulement avec la guerre de 40 que curieusement, au moment où Churchill redressait le pays et combattait tout seul pratiquement en Europe contre Hitler, que le cinéma anglais a pris un essor véritable. Et même s'il y a eu quelques films avant 1940, bien sûr, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de cinéma du tout. Il y a eu des films, par exemple « La vie privée » de Henri VIII, de Alexandre Korda, qui était un Hongrois d'ailleurs, immigré, avec Charles Laughton, est un film tout à fait passionnant. Il y a eu quelques films d'Hitchcock, évidemment très bons, de Anthony Aswin. Mais enfin, on ne peut pas dire que c'était vraiment un grand cinéma. Par contre, après, pendant la guerre et après la guerre, on a vu un cinéma de très grande qualité qui correspond un peu au cinéma français de cette époque, c'est-à-dire au cinéma de René Clair, au cinéma de René Clément, au cinéma d'Autant Lara, de Clouzot, tout ce qu'on a appelé la qualité française que la Nouvelle Vague a beaucoup attaqué. Mais les Anglais ont fait un cinéma un peu du même type, avec des adaptations, avec de très bons comédiens. Je pense à David Lean, par exemple, Brève Rencontre. Je pense à mettant en scène comme Carol Reed, 8 heures de sursis ou Le troisième homme, qui ont fait le tour du monde. Je pense à la comédie anglaise aussi, les studios Ealing étaient spécialisés dans la comédie, avec des metteurs en scène comme Robert Hammer, comme Alexandre McKendrick, avec des films qui ont fait également le plaisir de tous les cinéphiles, L'homme au complet blanc, Noblesse oblige, Les tueurs de dames, à toutes ces comédies d'humour noir que les Anglais pratiquaient volontiers. Et puis ensuite, évidemment, ensuite, le cinéma anglais a continué à prospérer et à donner de très grands films.
Et de grands réalisateurs, même actuels, on a le plaisir de voir Ken Loach, Stephen Frears, Greenaway. En fait, ils ont vraiment pu conquérir l'Europe et le public européen.
Oui, alors, ce que j'essayais de développer tout de même, c'est qu'on a une vision en France un peu réductrice du cinéma anglais. C'est-à-dire que maintenant, le cinéma de la comédie de Ealing, c'est passé, on n'y pense plus, on ne s'en rappelle plus. Mais avec des metteurs en scène comme Ken Loach, comme Mike Leigh, comme Stephen Frears, l'accent social, l'accent réaliste a été mis en valeur. Et on a un peu réduit le cinéma anglais au réalisme. Voilà. Et je pense que c'est un cinéma beaucoup plus riche. Et il y a toute une dimension excentrique. On ne comprend pas en France que les Anglais sont des gens un peu marteaux, un peu timbrés. Ils sont extraordinairement excentriques. Parce qu'on retient de Londres, de l'Angleterre, que les pavillons de banlieue identiques tous en série le long d'une rue, on retient les Horse Guards, on retient le thé à 5 heures, on retient les bus à Impérial, on retient tout un côté extraordinairement sage et réglé comme des métronomes de la vie anglaise, comme si elle était fastidieuse, ennuyeuse. Enfin, c'est tout de même le pays des Beatles, c'est le pays des Rolling Stones, c'est le pays des James Bond, c'est le pays des Monty Python, etc. Ce sont des gens qui sont très excentriques. Il suffit de se promener dans les rues de Londres. Les gens ont des cheveux de toutes les couleurs, beaucoup plus excentriques que les Français. C'est les Français qui sont beaucoup plus petits bourgeois. Les Anglais ont d'abord la classe populaire anglaise à son franc-parler. L'ouvrier français, il aspire à devenir un petit bourgeois, d'avoir une voiture, un pavillon, etc. L'Anglais...
Le
Cockney, il est agressif, il revendique son caractère ouvrier, il revendique ses origines populaires. Il vous dit darling dans le bus, il vous interpelle, il parle, il a une grande liberté. Et je pense que ça se retrouve dans l'art anglais. L'Angleterre, depuis la Renaissance, ça a été un pays... Alors évidemment, la reine Victoria a imposé une chape de plomb mais cette chape de plomb a explosé dans les années 60 avec le Swinging London. Ils ont retrouvé leur esprit rebelle, leur esprit contestataire, les grèves, etc., que Margaret Thatcher évidemment a voulu réprimer. Donc tout ça se retrouve dans leur cinéma. Il y a un cinéma d'excentrique. Par exemple, John Boorman est un excentrique. Il suffit de voir Léo Delas, par exemple, ou Excalibur, ou Zardoz, pour voir qu'il fait des films qui sont inspirés, romantiques, avec un mélange d'humour et de tragique, etc., comme Shakespeare, d'ailleurs. Powell et Pressburger, par exemple, ont fait des films qui ont été souvent méprisés par l'intelligentsia, par la critique, des films comme Le Colonel Blimp, comme Le Narcisse Noir, comme Une affaire de vie et de mort, qui sont des films épiques, culottés, audacieux, etc. Et puis Peter Greenaway, dans le cinéma contemporain, maintenant il est en éclipse, on ne parle plus de lui, mais il a fait des films étonnants. Ken Russell aussi. Donc tout ce cinéma, et puis évidemment les films d'horreur, les Frankenstein et Dracula de Terence Fisher. Donc il y a toute cette veine fantastique, onirique, surréaliste du cinéma anglais, qui correspond d'ailleurs à la grande littérature anglaise, avec Léo de Jourlevent, avec Le Château d'Otrante, avec Le Moine, tous ces romans gothiques, et puis la peinture anglaise, William Blake, les tableaux de...
Turner,
les tableaux de John Martin sur des visions d'apocalypse, d'incendie, de fin du monde, etc. Donc tout cela existe dans l'Angleterre, côte à côte avec le réalisme. Je dirais même que les deux sont des réactions contre justement le moi. Le moi anglais, il a un surmoi. Le surmoi contrôle la vie des Anglais. Et les artistes font éclater le surmoi au profit du ça, c'est-à-dire vraiment de quelque chose de tellurique, de quelque chose qui vient du profond de l'être.
La quintessence.
Et voilà. Et donc, c'est le retour du ça, parce que le surmoi a trop longtemps régné.
Mais vous parlez de tous ces cinéastes. Côté romantique et à la fois aussi un peu fantaisiste, il y avait James Avery qui nous avait offert des films fantastiques, Chambre avec vue, Maurice, ou alors Kenneth Branagh aussi, qui a su mettre Shakespeare vraiment avec une fantaisie comme ça en scène. C'était magnifique.
C'est-à-dire que alors James Avery, c'est un autre problème. C'est d'abord la preuve que l'Angleterre, peut-être, on en a beaucoup parlé à l'époque du Brexit, c'est pas faux, Mais c'est pas du tout la vérité non plus sur l'Angleterre, c'est-à-dire un pays insulaire qui refuse, qui se replie sur lui-même, qui refuse des étrangers, qui cultive sa différence. C'est complètement faux. C'est-à-dire, en matière de cinéma, si on regarde l'Angleterre, c'est énormément d'étrangers ont travaillé en Angleterre. Vous parliez de James Ivory, c'est un Américain. C'est un Américain, mais qui veut tellement être anglais qu'il fait des films que les Anglais ne font pas. C'est-à-dire des films extrêmement lisses, très soignés.
Photographie exceptionnelle.
Où il ne manque pas un bouton de guêtre, tout est parfait, etc. Des adaptations, justement, de Forster, de Jane Austen et tout. Mais ce n'est pas du tout seulement ça, le cinéma anglais. Alors, regardez, Richard Lester, par exemple, qui fait des films avec les Beatles. Quatre garçons dans le vent, Help. C'est un Américain. Regardez Joseph Losey, Accident, Le Servant, des films très troublants, très inquiétants. C'est un Américain. Regardez Stanley Kubrick, des films comme Orange Mécanique. C'est un Américain. Donc il y a énormément de gens qui sont venus travailler en Angleterre. Antonioni fait Blow Up en Angleterre. Polanski fait Cul-de-sac, Répulsion, Le Bal des Vampires en Angleterre. C'est-à-dire que Skolimowski fait Le Cri du Sorcier et puis Deep End en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent travailler en Angleterre. C'est pas nouveau. Dans les années 30, comme il n'y avait pas de grands cinéastes anglais, Alexandre Korda, qui était lui-même un juif hongrois, le plus grand producteur anglais, c'était un juif hongrois, faisait des films, La vie privée d'Henri VIII, mais il faisait venir, comme il n'y avait pas de talent en Angleterre, il faisait venir Sternberg qui tournait I, Claudius, qui n'a pas terminé, il faisait venir Jacques Feder, le chevalier sans armure, il faisait venir René Clair, Fantôme à vendre, il faisait venir Duvivier, c'est-à-dire qu'on faisait venir des grands talents français et américains pour tourner en Angleterre. Donc l'Angleterre a été extrêmement ouverte, et ensuite Churchill, pendant la guerre, a accueilli De Gaulle et a accueilli les Polonais, les résistants polonais, etc. Donc l'Angleterre n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'elle accepte les étrangers peut-être plus facilement que les Français.
Et quelle est votre opinion maintenant que le Brexit va être actualisé, officialisé? Quelle est votre opinion par rapport justement à l'avenir des artistes, ces échanges qui se font normalement?
Je pense que le Brexit va faire souffrir les artistes, c'est sûr, parce qu'il y avait énormément de coproduction, et bon, c'est une catastrophe pour l'Angleterre. Elle va s'en rendre compte de plus en plus. Déjà, elle s'en rend compte. Peut-être s'il y avait une élection aujourd'hui, le Brexit ne serait pas voté. Mais incontestablement, toute la classe intellectuelle, les universitaires, les artistes ont été catastrophés par le Brexit. Les jeunes ont été catastrophés. Je trouve qu'un vote où c'est les vieux qui l'ont remporté alors qu'il s'agit du futur du pays et qu'on n'a pas donné finalement le même poids à la jeunesse, c'est extrêmement grave.
Et par rapport au cinéma américain que vous avez connu quand vous étiez là-bas et celui que vous avez mentionné, quelle est votre opinion sur le cinéma actuel hollywoodien qui a beaucoup de moyens pour produire de grandes productions, mais en même temps parfois qui déçoit par une certaine uniformisation, une vulgarisation aussi?
Écoutez, le cinéma américain ne traverse pas sa meilleure période parce qu'il est fondé sur des films effectivement à grand spectacle, des effets spéciaux, etc. Mais il n'y a pas que ça. D'un seul coup, moi je vois à Positif, par exemple, on a toujours défendu beaucoup le cinéma américain, méprisé souvent par les intellectuels, et qui a tout de même, quand on fit le bilan, en sentant un nombre inouï de génies et de très grands cinéastes, malgré les contraintes du système, Capra, John Ford, Brown Walsh, Howard Hawks, Hitchcock, ils ont tous Kazan, Minnelli, ils ont tous fait des films sublimes avec les contraintes de l'horrible capitalisme. Ils ont réussi à communiquer avec le grand public, à traiter de ce thème sérieux. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout au contraire. Je crois que le cinéma américain, c'est une grande leçon démocratique. C'est-à-dire que c'est des artistes qui pensent au public, pas pour être des prostituées. Comme disait Panofsky, les deux dangers qui guettent un artiste, c'est de rester une vieille fille ou de devenir une putain, même si ce langage est un peu sexiste aujourd'hui.
Mais attention aux accusés. Vous avez vu que Monsieur Weinstein a quelques soucis actuellement.
Voilà. Donc, mais je pense que c'est une très belle métaphore parce que la vérité de du grand artiste, il se trouve entre les deux. C'est ne pas faire des films pour 2000 personnes et ne pas faire des films non plus pour des millions de gens en disant, comme disait Max Ophuls, à force de courir après le public, on ne voit plus que son cul. Et je trouve que c'est très vrai. Le cinéma américain, la grande leçon du cinéma américain, moi j'ai fréquenté beaucoup les metteurs en scène américains, ils pensent au public. Pas pour donner au public ce que le public veut, bien sûr, ça c'est de la prostitution, mais ils pensent au public, c'est-à-dire est-ce que je vais réussir à atteindre le public en maintenant mes exigences artistiques. Kubrick a coupé dans ses propres films 20 minutes parce qu'il pensait que c'était trop long. Il a vu devant le public que ça marchait pas, que les gens s'ennuyaient, etc. Il a coupé. C'est pas comme certains metteurs en scène européens qui disent « Moi, je fais un film de 3h30 et puis tant pis pour eux, s'ils n'aiment pas ça, c'est moi qui suis génial. » Donc, déjà, le cinéma américain est une grande leçon de démocratie. Et puis en plus, ce cinéma américain, encore une fois, a donné beaucoup de films. Alors, à Positif, par exemple, les derniers numéros d'octobre, novembre, décembre, on n'a pratiquement pas de films américains. Parce que c'est pauvre. Mais par contre, au début de l'année prochaine, on va voir le nouveau film de Woody Allen, qui est un mélodrame qui surprend tout le monde, qui n'est pas du tout dans son registre, ou très peu dans son registre. On va voir un film de Mark McDonagh, un Irlandais anglais qui a fait aux États-Unis un film qui s'appelle Three Billboards, les panneaux de la vengeance, qui est un film absolument remarquable.
Qui était à la Mostra cette année.
Qui était à la Mostra. On va voir un chef-d'œuvre de Guillermo del Toro, certes un Mexicain, mais qui travaille à Hollywood. La forme de l'eau, qui est un film absolument stupéfiant. Et là, on retrouve le grand cinéma américain qui est capable de réconcilier l'ouvrier, le paysan, l'intellectuel, l'enfant, le jeune, le vieux. C'est ça, c'est le côté universel.
C'est du divertissement aussi.
Le divertissement, mais qui pose des problèmes graves, des problèmes sérieux. Donc, moi, j'ai trop eu de bonheur avec des cinéastes américains. J'ai fait des livres sur Kubrick, j'ai fait des livres sur Lozet, sur l'Angleterre, bien sûr aussi, qui a été un cinéaste anglais, sur Bourman, qui est aussi un cinéaste anglais, avec Kazan, avec tous ces gens-là. C'est un cinéma qui m'a donné tellement de joie que je ne dirais jamais que c'est un cinéma gouverné par le profit, même si aujourd'hui, je reconnais que le cinéma français, par exemple, propose chaque année peut-être plus de variété et plus d'individualité. On en voit des exemples au festival de Pessac, où il y a beaucoup de films français qui sont montrés de très haute qualité. Mais je ne porterai pas de jugement définitif sur le cinéma américain.
Là, vous mentionnez que vous aviez, par exemple, certains films ou certains cinéastes qui vous ont peut-être agacé ou un petit peu déçu. Et vous avez peut-être pu, au fil de leur filmographie, changer d'opinion. Lesquelles sont-elles, par exemple ? Vous parliez de quelqu'un qui peut faire 3h30 et puis agacer le public. Est-ce que vous avez évolué selon la filmographie d'un cinéaste sur son œuvre ?
Bien sûr, j'ai évolué, si eux-mêmes ont évolué. C'est-à-dire que s'ils se maintiennent au même niveau comme Kubrick, je suis admiratif de tous ces films, parce que je ne pense pas que Kubrick ait fait un mauvais film, sauf à ses tout débuts, peut-être un ou deux films qui étaient moyens. Médiocre, mais c'est un génie. Bon, alors j'ai suivi même quelqu'un comme Fellini avec ses défauts parfois dans certains films, mais dans l'ensemble, je trouve la filmographie de Fellini ou de Buñuel, c'est assez exceptionnel. Mais il y a des cinéastes que j'ai adorés à leur début et qui m'ont beaucoup déçu ensuite et dont j'ai beaucoup moins suivi le parcours. Je pense à un cinéaste brésilien comme Gobert Rocha, je pense à un cinéaste comme Bertolucci. Ce sont des, comme Carlos Saura en Espagne, ce sont des gens que j'ai beaucoup défendus en couverture de Positif, dans des entretiens, et qui n'ont pas confirmé le talent très grand qu'ils avaient au milieu de la carrière. Et la fin de leur carrière est très décevante. Bon, ça arrive très souvent. Je crois que l'inverse arrive rarement. C'est-à-dire des gens qui font 7 ou 8 films médiocres et qui deviennent des grands cinéastes. Ça, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Mais par exemple, quelqu'un comme Bellocchio, je l'ai suivi toute sa carrière. C'est un cinéaste qui était exceptionnel à 26 ans et qui est exceptionnel à 75 ans. Je pense que c'est un cas de réussite très, très impressionnante, de continuité. Bresson a une œuvre très cohérente aussi. Voilà. Donc. Il y a de tout hein, dans le cinéma. Mais je m'attache au premier film parce que je pense que dans le premier film, il y a une phrase que j'aime pas du tout, qui est pratiquée par beaucoup de confrères. C'est pas mal pour un premier film. Je trouve que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire souvent, le meilleur film de quelqu'un, c'est son premier film. Parce que quand vous faites votre premier film et que vous avez évidemment du talent, si vous avez un très grand talent, votre très grand talent peut se gâcher au fil des années parce que vous avez eu des déboires de santé, parce que vous avez eu des déboires familiaux, parce que vous avez eu des déboires avec la critique, parce que vous avez eu des déboires avec les producteurs. Et finalement, vous rendez les armes, vous baissez les armes, vous payez votre maison de campagne, vous tournez des films que vous ne devriez pas tourner. Tandis qu'un premier film par quelqu'un qui a un très grand talent, il met tout dans son premier film. Il n'a pas peur de la critique parce qu'il ne l'a jamais rencontré. Il n'a pas peur du public parce qu'il ne l'a jamais rencontré. Il n'a pas peur des producteurs, c'est son premier film. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de premiers films exceptionnels. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de réussir le huitième film. C'est ça qui est très dur. Faire le huitième film, c'est-à-dire après tous les aléas de la production, tous les coups qu'on a reçus, tous les baffes qu'on a reçus dans la figure, de continuer à faire des grands films. C'est ça qui est difficile. Mais le premier film, c'est souvent le meilleur film du metteur en scène. Orson Welles ne me dirait pas le contraire.
Michel Simon, vous parlez de critique, justement. Le masque et la plume. Je vais bientôt vous libérer. Dernière question. Le masque et la plume, projection privée. Est-ce que la critique, justement, vous pensez qu'elle n'est pas un peu en train de s'étioler? Parce que maintenant, en tout cas à la télévision, il y a souvent des présentations qui sont plutôt des sortes de promotions dithyrambiques, plus que de la critique.
Pas vraiment au masque et la plume.
Pardon ?
Pas vraiment au masque et la plume.
Non, mais je parle de la télévision, justement.
La télévision, est-ce qu'on propose... Il n'y a plus de critique. La télévision, ce n'est pas de la critique, c'est de la promotion.
Oui.
C'est la promotion. Ce que... La critique, elle se pratique vraiment dans très peu d'endroits. Elle se pratique dans les revues de cinéma, et encore pas les magazines, comme Première et Studio, mais elle se pratique à Positif, au Cahier, à la Septième Obsession. Enfin, il y a quelques revues. Et puis, dans les livres, évidemment, il y a de plus en plus de très bons livres de cinéma qui se produisent à l'université. Il y a toute une cinéphilie dans le grand public qui s'est développée. Les gens, aujourd'hui, par exemple, prenez un film que moi, j'ai beaucoup admiré, qui est The Square, La Palme d'Or de Cannes, qui a été assassiné par la moitié de la critique française, qui a été traîné dans la boue par Le Monde, qui met une étoile, alors qu'ils mettent quatre étoiles à un film indonésien de 4h30. Bon, The Square a été assassiné par Libération, a été assassiné par beaucoup de journaux. La moitié de la critique a défendu le film, l'autre moitié l'a attaqué. Bien, le film en est à 300 000 entrées, il va faire 350 000, 400 000 entrées. Un film qui dure 2h30, suédois, sans aucune vedette, parce que la Palme d'Or ne suffit pas. Il y a des Palmes d'Or qui ont fait 100 000 entrées ou 80 000 entrées. Là, on est à 350 000. Et ça veut dire qu'il y a un public qui se fiche de la critique, cultivé, cinéphile, curieux, qui a senti qu'il y avait dans ce film quelque chose d'original, de personnel, de sur notre époque. Il est allé le voir. Et s'il n'avait pas aimé le film se serait effondré. Donc là, je dis que le public a plus de jugement que la critique.
Merci Michel Simon de nous avoir accordé du temps. Ce fut un plaisir de vous entendre.
Merci bien.